c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, consolidation de la force qui lutte contre Boko Haram au Niger. Impression mitigée des 100 jours du gouvernement de Roch Kabore. Rubrique santé, l'OMS a présenté un nouveau plan de lutte contre le paludisme. Enfin, page éducation, grève et débrayage continuent dans le secteur scolaire au Sénégal. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. L'émission avec le Niger, où la force mixte mise en place dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram est en cours de consolidation. Le général Lamidi Adewosun, à la tête de cette force, a fait le point sur l'avancée des travaux lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
À Niamey, le commandant de la force est venu faire le point aux autorités des actions menées par cette force depuis janvier, date de son opérationnalisation. Commandant Lamidi Adewosun.
It took some time before the forces were welded together.
Le démarrage a été laborieux, mais aujourd'hui, toutes les forces sont déployées, elles sont opérationnelles. Je commencerai par le Niger. Nous avons Adifa, le PC du sous-secteur 3. Qui est co-localisé avec le PC de l'opération NGA. Ce sous-secteur travaille en collaboration avec le secteur 3 qui est basé à Baga au Nigeria. Vous êtes tous sans ignorer les prouesses du secteur 1 qui chaque jour lutte en bonne coopération et coordination avec les opérations nigériennes de
The national operation NGA, which is also deployed to fight the Benes of Boko Haram.
Tout se passe bien, donc, a semblé dire le commandant Lamidi, même si la force attend encore des moyens.
In concrete terms, the pledges are there.
Sur le soutien logistique de la force, je tiens à vous dire qu'il y a eu, après les différentes réunions, plusieurs engagements, des engagements pour un soutien, mais rien de concret n'a été fait. Tout ce que nous avons reçu au niveau de la force, c'est les moyens de communication et 11 véhicules. Même vous, les journalistes, vous auriez voulu avoir pour faire votre travail, mais vous le faites quand même avec le minimum qui est à l'autre. Donc mes forces ont le minimum et font avec le minimum qu'ils ont à disposition pour
assister les gens. Even outside your immediate environment, out of what is not enough.
Selon le concept de cette force mixte, le soutien est national, c'est-à-dire que ce sont les pays engagés qui soutiennent leurs troupes. Le même concept prévoit un soutien additionnel à la dite force. Et c'est ce soutien que l'Union africaine devait mobiliser qui tarde depuis bientôt 4 mois. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le dossier central est consacré au Burkina Faso cette semaine. Le gouvernement de Roch Kabore a fêté ses 100 premiers jours et ses premières actions laissent des impressions diverses. Le think tank Burkina International vient de livrer les résultats d'un sondage national, l'occasion de réaliser un premier bilan. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Les 100 premiers jours de Roch Kabore passés au scanner par la société civile burkinabé. Après l'opposition politique, ces organisations font part des résultats mitigés. Dernière en date à s'y essayer, le think tank Burkina International qui, lui, est allé sonder les populations dans les 13 régions du pays sur l'action gouvernementale post-transition Haruna Kabore en le président.
Le résultat donne effectivement une note de 6 sur 10 pour le président du FASO, une note de 5,4 sur 10 pour le Premier ministre et puis une note de 5,6 pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi des questions liées effectivement donc, aux priorités des Burkinabés. Donc on voit effectivement donc, que la santé vient effectivement donc, en tête. Nous sommes allés nous poser la question pour savoir qu'est-ce que les populations pensent des différentes décisions gouvernementales sur le recrutement donc, des enseignants, la gratuité des soins. Ils ont fortement apprécié ces différentes mesures-là.
En rapport avec les mesures de gratuité des soins obstétricaux, et les recrutements d'enseignants pour le primaire et le collège, les organisations de la société civile les ont, les unes après les autres, dénoncées. C'est le cas de Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril M21.
On ne peut pas former quelqu'un au bout de 6 mois pour aller enseigner des enfants. Et encore avec un salaire vraiment tout à fait précaire, ça ne va pas. Si je prends encore la gratuité des soins, aujourd'hui on dit c'est gratuit. Tu arrives à l'hôpital avec ton enfant, puisqu'on a dit les femmes enceintes, les bébés. Vous arrivez, votre bébé est malade et que le médicament qu'on a dit de donner gratuitement n'existe pas, mais l'ordonnance qu'on va te donner, est-ce que tu pourras avoir le médicament dans les pharmacies gratuitement?
Désiré Ginko, du cadre de concertation des OSC, n'y va pas de main morte.
Durant ces 100 jours, ce gouvernement a passé tout son temps à tâtonner, à se focaliser sur la gestion de la transition en longueur de temps, au lieu de chercher à répondre aux aspirations populaires.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Danguino, il faut savoir comprendre les premières mesures du président Roch Kabore.
Les premières mesures qui ont été prises sont des mesures d'urgence, qui vise effectivement à répondre à une attente et à donner également un signal très fort. Et s'inscrit dans le cadre donc de ce qui a été pensé en termes de programme présidentiel qui est devenu le programme de gouvernement de notre pays. Mais il faut comprendre que d'autres mesures viendront.
Différents points de vue qui, cependant, ont le point commun de polariser une attention particulière de l'opinion nationale sur les premiers faits et gestes d'une administration Kabore plus que jamais attendue en cette période post-transition. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Burkina toujours, avec le dernier rebondissement dans l'affaire de la vente de parcelles au profit de l'ancien Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida. L'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption a rendu en fin de semaine dernière son rapport d'audit de la gestion de la transition, notamment sur les passations de marché. Idriss Fall a joint Luc Marius Ibriga, auteur du rapport.
Sous la transition, il y a eu un usage assez fréquent des procédures exceptionnelles de passation des marchés, des gré à gré, pas en conformité avec les règles communautaires de deux mois. On est à près de 55% en termes de marché conclusion des procédures exceptionnelles, alors que deux mois prescrit une règle de 15%. Bonne partie de ces marchés ont été passés au niveau du programme social d'urgence de la transition pour répondre à la demande sociale, mais on trouve quand même aussi dans les ministères un certain nombre de marchés de gré à gré.
Est-ce qu'au-delà, on a des preuves de pot de vin?
Non, les points de contrôle, c'était la planification des marchés publics, la passation des marchés, l'exécution financière et l'exécution physique, nous n'avons pas pu le faire. Il aurait fallu croiser l'exécution financière, la passation et l'exécution physique pour pouvoir mettre à nu un nombre de collusions. Cela demande qu'il y ait des investigations et que l'on puisse voir s'il y a des relations avec des ministres ou pas. Mais les différentes entreprises que nous avons vues sur les marchés, à première vue, il n'y a pas de collusion, mais ça mériterait d'être creusé.
Vous touchez aussi à l'attribution des terrains, non?
Oui, on s'est intéressé aussi. Il y a eu une mission d'investigation à propos d'un certain nombre d'allégations concernant des terrains qui avaient été attribués par la Société nationale des terrains de la Sonature qui mettait en cause l'ancien Premier ministre et certains membres du gouvernement. Et sur les 7 allégations, il y a une qui n'est pas avérée, mais dans les irrégularités, ce sont des irrégularités qui concernent le mode d'attribution des parcelles, qui n'a pas respecté les textes prévus par la Sonature elle-même et aussi la mise en évidence de beaucoup de dysfonctionnements. Nous avons fait 3 recommandations, la suspension des attributions et un audit général, qui d'ailleurs sera fait puisque le gouvernement lui-même a demandé un audit de lotissement à Ouagadougou. Ensuite, nous avons demandé que tous les attributaires qui ne sont pas en règle, les terrains soient purement et simplement retirés. Troisièmement, une restructuration profonde de la Société nationale des terrains à son nature.
Est-ce que ça veut dire que l'ancien Premier ministre Zida, qui a sa parcelle à Ouaga, pourrait perdre son terrain?
L'ancien Premier ministre s'est déjà retiré de la parcelle puisqu'il a adressé une correspondance à la Sonature pour dire qu'il n'était plus preneur de la parcelle. Normalement, il devrait se voir remettre son acompte moins 10%.
Luc Marius Ibriga, de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Rubrique santé à présent, en finir définitivement avec le paludisme, fut le thème lundi de la Journée mondiale de lutte contre la malaria, qui ne cesse de faire des ravages dans plusieurs pays du monde, et en Afrique subsaharienne en particulier. Dans son rapport, l'OMS mentionne son plan de lutte 2016-2030, dont l'objectif est d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays d'ici 2020. Pour un état des lieux, Nani Talani a joint à Genève le docteur Pascal Ringwald du programme de l'OMS contre le paludisme.
Tout à fait. On estime qu'il y a à peu près 214 millions de cas de paludisme à travers le monde en 2015. Et on estime le nombre de morts à 438 000. 90% de ces morts surviennent en Afrique et en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. À peu près 290 000 enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans en Afrique subsaharienne et ça c'est dû au paludisme.
Qu'est-ce qui fait que l'Afrique subsaharienne soit la partie la plus touchée dans le monde par le palu?
Il y a surtout déjà un problème d'écologie, il y a beaucoup de vecteurs, il y a une très forte densité de population et il y a beaucoup de paludisme qui circulent. Donc ce qui fait que plus vous avez d'individus porteurs, plus vous avez des moustiques, plus le nombre de cas augmente. C'est une balance entre le potentiel des vecteurs et le nombre de personnes qui portent le paludisme.
Quels sont les pays africains les plus durement touchés par le paludisme?
Oui, tout à fait. Les deux qui sont en tête de liste sont le Nigeria et la République démocratique du Congo qui comptent le plus de cas. Enfin, ce sont les pays qui ont le plus grand nombre de cas parmi les pays africains.
Est-ce qu'on peut savoir quelles avancées ont déjà été faites dans la lutte contre le palu?
Oui, bien sûr. On a, sur les 15 dernières années, on a énormément augmenté la lutte antivectorielle. On a augmenté le nombre de personnes qui dorment sous moustiquaire. Maintenant, à peu près plus de 50% de la population a accès à des moustiquaires imprégnés, comparé à 2% seulement en 2000. Ça, c'est déjà une très grande avancée. En 2014, il y a 116 millions de personnes qui ont été protégées par des imprégnations intradomiciliaires avec des insecticides, alors qu'il n'y avait que 6% auparavant. On a aussi augmenté le nombre de diagnostics, c'est-à-dire que les gens ont plus facilement accès à des diagnostics. On a eu les augmentations de vente des diagnostics de tests rapides est passé de 46 millions en 2008 à 314 millions en 2014. Et aussi des gens beaucoup plus accès au traitement. Il y a eu 337 millions de traitements à base d'artémisine, des combinaisons d'artémisine qui ont été délivrées en 2014 par rapport à seulement 11 millions en 2005. Donc vous voyez qu'il y a eu des avancées énormes dans la lutte contre le paludisme, rien qu'à travers ces quatre interventions.
Le docteur Pascal Ringwald du programme de l'OMS contre le paludisme. Rubrique éducation pour finir l'émission. Au Sénégal, les établissements scolaires publics font face régulièrement à des grèves et autres débrayages. À l'origine des crispations, la mésentente entre les syndicats de l'enseignement et le gouvernement, le point d'achoppement étant souvent les finances. Et pourtant, le ministre de l'Éducation le martèle, il n'y aura pas d'année blanche. De Dakar, la correspondance de Sokhna Natambaye.
Le système éducatif sénégalais est dans l'impasse avec des grèves répétitives. Les syndicats et le gouvernement se sont entendus sur plusieurs points et ont signé des accords. Mais voilà, plusieurs revendications n'ont pas été prises en charge, surtout celles liées aux différentes indemnités. Serigne Baïtia, ministre de l'Éducation nationale, reconnaît la responsabilité du gouvernement, mais demande aux enseignants de lâcher du lest.
Je pense qu'il y a une introspection à faire. Le gouvernement gouvernement a la responsabilité de ne pas devoir de l'argent aux enseignants et de respecter les engagements qu'il prend. Les enseignants ont aussi la responsabilité, tout en manifestant leur mécontentement, tout en faisant des revendications, de changer ou de modifier les formes de lutte qui permettent à nos systèmes éducatifs de profiter des investissements qui sont en train d'être effectués.
Mamadou Lamine Dianté, le coordonnateur du grand cadre des enseignants, parle d'un manque de volonté de l'État. Plusieurs délais ont été donnés pour le respect des accords et aucun d'eux n'a été respecté, selon lui. Pour ses camarades syndicalistes, l'heure est venue de dire la vérité. Babacar Mar, professeur d'anglais.
Je crois que ce que le président doit faire, c'est de faire face aux enseignants et de dire exactement ce qu'il en est. Pour construire un pays, il faut une bonne santé et une bonne éducation. Mais on est là à nous mépriser, on est là à nous menacer, on est là à dire des contre-vérités. Je suis découragé jusque dans mes os.
Sur le terrain, élèves et personnels des administrations scolaires observent impuissants. C'est le cas de cette directrice d'une école élémentaire.
Cela nous inquiète en tant que chef d'établissement parce que nous nous soucions de la réussite de nos enfants, de nos élèves.
La question a été maintes fois agitée. Y aura-t-il une année blanche ou une année invalide? Le ministre de l'Éducation nationale rassure.
C'est pas possible. C'est pas une grève continue. C'était des grèves perlées. Le maximum de jours de grève que nous avons constaté, parce que le nombre de jours de grève varie d'un établissement à l'autre. C'est entre 5 jours et 12 jours à peu près. Je pense que d'ici quelques jours, vous verrez vous-même qu'il y aura une dextirpation dans ce secteur-là et que les cours vont reprendre.
Les rencontres se multiplient ces jours-ci entre syndicats et autres médiateurs, tels que le Haut Conseil du Dialogue Social. Pour les enseignants, tout dépend du gouvernement. C'est à lui de sauver ou de sacrifier l'année scolaire en cours. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Elvin Sangano. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Papa Wemba, bien sûr, qui interprète ici Mofoudé Ya Pela. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Y la